Ce soir, on continue l'étude sur les dons de service. On en a vu plusieurs. Ce soir, pas juste pour ce soir, mais chacun des dons de service sont importants dans l'Église. Autant que les dons spirituels, chacun des dons sont importants, mais les dons de service aussi sont importants. Puis le but qu'on passe à travers de plusieurs dons de même, c'est que chacun puisse trouver sa place. On est appelé à servir. On est tous des serviteurs de Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es à son service. Tu es comme, c'est lui le roi, le Seigneur, puis nous, on est ses serviteurs. Puis il faut trouver notre place dans le corps de Christ si on veut et augmenter nos bénédictions de sa part, parce que Dieu bénit ceux qui s'investissent, ceux qui travaillent pour sa cause. Puis le don qu'on va voir ce soir, c'est sûr que ça touche tout le monde, mais c'est sûr que ça va toucher certaines personnes plus que d'autres, parce qu'on est tous différents dans des dons différents. Ce soir, le don de service, c'est qu'est-ce qui peut servir à servir Dieu? C'est dans la libéralité, la générosité, puis comme pour être un pourvoyeur pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On voit dans la parole, quand on parle des dons spirituels, ça nous dit dans Romains 12, 6, ça nous dit que Dieu, il nous a tous équipés pour un ministère dans son œuvre, mais en particulier ce soir, c'est un ministère de soutien pour son œuvre. Ça a toujours été, même dans le temps de Jésus, il y avait du monde qui entourait Jésus, les apôtres, il y avait du monde qui entourait les apôtres, puis il y a des gens qui servaient pour aider l'apôtre ou aider Jésus à y faire à manger, à pourvoir, à y laver son linge, à y pourvoir est-ce qu'il a besoin d'un chameau ou d'une barque ou il a besoin d'une chambre haute. Il envoyait ses disciples lui rendre des services. Mais ça nous dit aussi qu'il y en a d'autres qui aidaient en supportant financièrement ou de leurs biens qu'ils avaient pour, que mettons, de la nourriture. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui en emporte. Jésus traînait pas son doggy bag ou sa boîte à lunch. Il y avait du monde qui s'occupait de ça. Lui, il prêchait, il faisait ce qu'il avait à faire. C'était comme un missionnaire, quelqu'un qui se promène de ville en village. Puis il y avait du monde qui il devait aller au... Il n'y avait pas de dépanneur, mais il devait avoir comme des endroits pour aller chercher de la nourriture. Puis les choses se faisaient, puis il mangeait, puis tout se faisait. Mais ça prend du monde autour de ça. Dans Romains chapitre 12, le verset 6, il dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Là, il nous nomme quelques dons. Il dit « Que celui qui donne le fasse avec libéralité. » Là, on voit que le verset nous parle de celui qui donne, mais qu'il le fasse avec libéralité, ça veut dire d'une manière non égoïste, avec une ouverture de cœur, puis qui se manifeste avec générosité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là autour des disciples, puis qui vont, c'est le particulièrement plus le job à eux, c'est d'être quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui pourvoit, quelqu'un qui a le cœur ouvert à vouloir donner, puis d'une manière généreuse, pour supporter les ministères. Mais c'est pas juste certaines personnes qui doivent faire ça. On va voir dans les versets que c'est le plan de Dieu que tout le monde participe à donner quelque chose. C'est sûr qu'on donne pas toutes la même chose. Ça dépend toujours de nos revenus, puis comment est-ce qu'on est à l'aise financièrement, ou des fois, il y en a qui sont... C'est des personnes généreuses de nature, puis il y en a d'autres qui sont gratines de nature. Fait que là, il faut apprendre à être capable de donner aux autres ou donner dans les ministères, à être généreux. Une personne généreuse, tu peux... Je sais que moi, je suis plus généreux aujourd'hui que je l'étais quand j'étais jeune. Mais je comprenais pas c'était quoi le plan de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce qu'il fallait être généreux, puis comment être généreux, c'est quoi être généreux. Mais quand tu développes, tu grandis, il y en a qui c'est naturel, ils ont même pas besoin de se le faire dire, ils sont déjà des personnes généreuses. Mais Dieu nous appelle à ce qu'on soit généreux, autant que j'ai parlé les autres semaines d'être de service puis aider, mais il y a aussi ce qu'on peut donner qui peut aider aussi. Le cœur de Dieu est que chacun puisse s'investir de façon à s'enrichir dans les cieux. Dieu nous appelle à ce qu'on se ramasse des richesses dans la vie éternelle. Avez-vous l'assurance que vous allez prendre votre pension à 65 ans?
Ça dépend du physique.
Ça va dépendre du physique. Puis ça va êtes-vous certain qu'à 65 ans, quand vous allez prendre votre pension, que vous allez avoir assez de revenus pour pouvoir faire ce que vous voulez faire? On n'est pas sûr. Est-ce que ça se peut qu'on est appelé quand on est quand on est en train de bâtir notre vie, qu'on pense à s'accumuler un petit quelque chose pour notre pension? Il y en a beaucoup qui le font. Ils préparent leur pension. Quand ils arrivent à leur pension, ils ont un plus gros montant parce qu'ils en ont mis de côté tout le temps. Mais il y a encore de quoi, encore plus pire que la pension 65 ans. Quelque chose de plus important que ça encore qu'il faut préparer. On s'en va dans l'éternité. Savez-vous ce que ça veut dire qu'on s'en va dans l'éternité? On va tous mourir un après les autres, puis on va rentrer dans la vie permanente. Là, on est dans la vie passagère. On est ici juste pour un bout de temps. On peut être ici pour 40 ans, 50 ans, 70 ans. On va tous quitter ce monde. On va rentrer dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on a préparé dans notre vie terrestre qui va faire qu'on va être à l'aise financièrement à l'autre bord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour me ramasser un fonds de pension éternel? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour que je sois dans l'abondance l'autre bord? Mais Jésus nous en a parlé dans plusieurs passages, puis il nous invite à se ramasser un trésor. Il dit dans Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où ce que la teigne et la rouille détruisent, puis les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus nous invite à préparer notre fonds de pension éternel. Puis il dit, ramassez pas pour votre vie terrestre, c'est sûr qu'on a besoin un peu. Je dis pas qu'on n'a pas besoin de rien ici. On a besoin. Mais notre trésor, notre surplus, notre abondance, nos réserves, nos overs, dans quoi que je vais l'investir? Pour le friper tout de suite, je peux le dépenser tout de suite. Puis je me paye des sorties, je m'en vais en voyage ici, m'en voyage là, puis il me reste rien. J'ai tout passé pour les choses de ce monde, mais je me suis pas ramassé rien pour l'autre bord. Il est important qu'il faut que je réalise qu'il faut que j'investisse à quelque part pour que je m'en ramasse quand je vais arriver dans ma vie éternelle, que j'aie beaucoup de choses à moi. Que je sois riche l'autre bord. On veut-tu être comme sur l'aide sociale, entre parenthèses, là, l'autre bord, où on veut être dans l'abondance, on veut être des riches l'autre bord. Jésus nous dit, amassez-vous des trésors. Il y a une possibilité, pendant qu'on vit ici, de se ramasser de quoi pour qu'on arrive l'autre bord, pour qu'on soit riche. Mais ça va dépendre de nous, où ce qu'on regarde. Il dit, là où est ton trésor, là va être ton cœur. Si ton trésor est sa terre, ton cœur est des choses de ce monde, puis pense rien qu'aux choses de ce monde, les plaisirs, les loisirs, les activités. Puis si ton cœur est dans le ciel, tu vas commencer à investir pour les choses du ciel, puis tu vas t'en ramasser. Tout ce qu'on aura gardé pour notre vie terrestre, là, qu'on aura dépensé ici, qu'on aura gardé dans notre compte de banque ou dans nos biens, quand on meurt, on quitte ce monde, puis tout reste là. Ça ne nous donne rien l'autre bord. C'est juste ce qu'on a fait pour Dieu qui se ramasse pour l'autre bord. C'est ce qu'on a servi Dieu, on a ramassé des choses en servant Dieu. Là, si tu sers, puis tu donnes parce que tu es généreux, c'est là que tu t'en ramasses. Nous pouvons essayer de planifier notre sécurité financière, notre avenir. Mais le Créateur nous demande de planifier en fonction de son œuvre, puis lui pourvoira au reste. Parce que là, on se fait des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi je vais être vêtu? Où est-ce que je vais aller vivre? Ça nous dit dans le prochain passage que je vais vous lire, que notre Père Céleste le sait qu'on a besoin de nourriture, de quoi à boire, de quoi à se mettre sur le dos, d'avoir une place où rester. Il sait qu'on a besoin, puis il nous dit, inquiétez-vous pas de cela. Il nous dit, cherchez premièrement mon royaume, ma justice. Servez pour les choses de mon royaume, puis tout le reste va vous être donné. Par qui? Par lui. Ça nous dit ça dans Matthieu 6, 31. Ça, c'est Jésus qui parle encore. Il dit, ne vous inquiétez donc point, dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, c'est les païens qui recherchent ça. Il dit, votre Père Céleste, il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice, puis toutes ces choses vous seront données. Dieu va pourvoir. Mais il veut nous voir premièrement en train de chercher son royaume. Tous doivent prendre part de pourvoir financièrement pour faire avancer les activités de l'œuvre de Dieu, les activités de l'Église, les activités, n'importe quoi qu'on fait d'évangélisation. On a besoin, l'œuvre de Dieu a besoin de finances. Ça, on en parle un petit peu de temps en temps, j'en ai parlé à quelques reprises, mais l'œuvre de Dieu a besoin de finances, c'est naturel qu'il faut payer un local, qu'il faut payer l'électricité, qu'il faut payer, si on n'a pas de téléphone, mais si on arrête le téléphone, il faut payer le téléphone. Si on, tout ce qui est là, ça coûte quelque chose. De donner quelque chose dans l'œuvre, tout le monde sont appelés à le faire. On va voir un peu plus loin de quelle façon qu'on peut donner. Mais dans Galates 6, le verset 6, ça nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire qu'on devra faire une part, on donne une partie de ce qu'on gagne. En réalité, si on y pense comme il faut, tu t'es donné au Seigneur, le Seigneur il t'a donné la vie éternelle, tu lui appartiens. Maintenant, il te demande, sers-moi. Là, entre-temps, il te donne une job pour que tu puisses gagner ton pain et tout ça. C'est quelque chose que Dieu te permet que tu aies, que tu es béni, que tu pourvois à tes besoins. Il n'y a rien de plus normal qu'on mette de côté une part de ce qu'on a reçu pour lui donner. Tu dis, Seigneur, tu me donnes tout ce que j'ai un toit sur la tête, j'ai la nourriture, les vêtements, j'ai tout. Puis tu me donnes, ben, il n'y a rien de plus normal que je t'en redonne une part. Qu'on commence à donner une partie de ce qu'on gagne pour Dieu. Là, ça dit dans ce texte-là, à une part à celui qui enseigne, mais nous, à l'Église, il n'y a pas de pasteur qui est payé. On a tout ce qu'on ramasse, on l'investit pour payer le roulement, le local, l'électricité, tout ça, puis on donne un peu aux pauvres, on fait des petites activités. Puis le roulement, ce qu'on fait, pour le moment, c'est bien correct, mais plus qu'ils vont en rentrer, puis plus qu'on pourrait faire des choses différentes, puis c'est ça qui est le but. Il n'y a pas personne qui en profite réellement, mais ça serait normal qu'on ait un pasteur payé à plein temps, mais pour le moment, c'est pas possible, fait qu'on on se casse pas la tête avec ça, puis on est correct comme ça. Mais si un jour le Seigneur pourvoit qu'il y ait plus d'abondance, mais il y aura des ouvriers qui travaillent à plein temps. Mais le but, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est le but. Faire une part, là, quand il dit que chacun donne une part de tous ses biens à celui qu'on enseigne, le mot part, ça vient du mot entrer en association, se joindre comme associé, devenir participant ou partenaire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que celui à qui qu'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens. Ça nous dit dans ce passage-là que tu donnes une part de tous tes biens, ça veut dire deviens un partenaire avec tes biens. Deviens un partenaire de l'ouvrage qui est en train de se faire. Tout le monde travaille dans l'Église à amener, à être partenaire. C'est un travail d'équipe faire avancer une Église. Toutes les Églises fonctionnent de même. Même les Églises catholiques fonctionnent de même. Ils reçoivent des dîmes, puis là, quand ils en ont plus, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils n'arrivent pas à réparer qu'est-ce que ça prend pour être réparé. Les bâtiments, mais il n'y a pas assez de monde qui donne, fait qu'ils cancellent des bâtiments, ils sont rendus qu'ils vendent leurs églises. Mais avant, elle était toute remplie de personnes qui participaient pour faire vivre ça, ces églises-là. Aujourd'hui, les églises sont toutes en train de fermer parce que le monde s'en va. Mais les églises évangéliques, il y en a de plus en plus qui se trouvent, que des gens qui sont conscients, qui ont besoin du Seigneur, puis qui veulent suivre le Seigneur, ils vont dans une église, peu importe l'église où ce que tu vas, l'église a besoin que tu deviennes un partenaire, que tu travailles avec les autres à faire avancer l'œuvre de Dieu, puis que tu donnes une part de ce que tu as selon tes moyens. Ça, on va le voir un petit peu plus loin. Puis il y a aussi, au niveau de l'évangélisation, nous devons aussi, en tant que chrétiens, aider en soutenant l'évangélisation, les missions. Parce qu'il y a des gens qui partent en mission. Il y en a qui vont aider dans des, comme quand il y a eu Haïti, des gros tremblements de terre. Il y a plusieurs chrétiens qui sont partis par aller aider ce monde-là qui vivait une crise dans leur pays. Ils sont partis par la foi, puis il y a du monde de leur église qui leur a donné de l'argent pour les aider à payer le voyage, puis ils ont aidé. Mais ou des gens qui allaient implanter des églises ailleurs, ils ont besoin d'être soutenus. Fait que des différentes façons de donner pour voir dans l'œuvre, il y en a plein. Mais dans ce passage-là, qui nous réfère à ça, c'est dans Tite 3:13, ça nous dit « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénos. » Zénos, c'est un docteur de la loi. « Et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » On voit que même les autres qui n'étaient pas partis du voyage, les autres pouvaient participer et se ramasser des fruits en soutenant les voyages missionnaires de Zénos et d'Apollos, puis de pourvoir ce que rien ne leur manque. Fait que le but, c'était pas de les enrichir, c'était de pourvoir ce qui lui manque de rien pour faire le voyage missionnaire. Fait que c'est dans le plan de Dieu qu'on peut aider de cette façon-là. L'apôtre Paul, il était soutenu, lui, tout, dans ses voyages missionnaires. J'en ai parlé un petit peu au début, mais on voit ça dans Luc 8, verset 3. Ça nous parle que Jeanne, c'est la femme de Chouza. C'était l'intendant d'Hérode. Hérode, c'était le roi Hérode que vous avez entendu parler de lui. Hérode et Ponce Pilate qui ont livré Jésus. Mais il y avait un intendant, puis sa femme était chrétienne. Elle soutenait l'apôtre Paul dans le ministère. Il y a Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ils aidaient avec leur bien. Puis il y a aussi, bien entendu, il y a aussi les pauvres, les nécessiteux que la Bible nous demande d'aider. C'est normal que ça nous dit dans Romains 12:13, pour nous parler des pauvres, pourvoyez aux besoins des saints, puis exercez l'hospitalité. Fait que Dieu, il veut qu'on s'entraide les uns les autres, qu'on exerce l'hospitalité, puis qu'on pourvoie aux besoins des saints. Puis ça, on le fait à l'église, on ramasse des paniers de nourriture. Puis quand quelqu'un a de la misère, on donne des paniers, puis ça l'aide. C'est sûr que ça peut grossir encore plus. Ça va dépendre comment est-ce qu'on en reçoit, mais ça peut grossir. Ça peut doubler, pas nécessairement doubler de personnes qui ont besoin, doubler de nourriture qu'on ramasse pour en donner encore plus à ceux qui n'ont de besoin. Mais pour dire qu'on fait bien de s'occuper, de ramasser un peu pour aider les pauvres. Ça fait partie du plan de Dieu. Là, il y a une chose qu'on va comprendre au niveau de la donation. Dieu ne nous demande pas de s'endetter pour donner, mais de le faire selon nos capacités. Parce qu'il y en a des choses que j'ai entendues dans ma vie chrétienne, mais on va voir le verset avant, puis on va vous en parler par la suite. 2 Corinthiens 8:12. Ça nous dit, quand tu es prêt à donner, là, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Tu as beau bien vouloir donner, mais quand tu veux bien donner, c'est agréable de faire ça en autant que tu as quelque chose à ta disposition à donner. Dieu veut pas qu'on s'endette pour donner. Il s'agit, en continuant au verset 13, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, parce que tu ne l'as pas. Tu veux aider, mais tu ne l'as pas. Là, tu t'exposes à la détresse en t'endettant. Il dit, il veut pas que tu fasses ça. Mais le principe, c'est de suivre une règle d'égalité. T'en as un, t'aides celui qui en a moins. Mais si t'en as pas, va pas t'endetter puis te rendre en détresse pour essayer d'aider quelqu'un. Parce que c'est toi qui vas en avoir besoin après. C'est une règle d'égalité qu'on doit comprendre. Dieu veut qu'on marche comme ça serait une règle d'égalité. Qu'on aille un peu de plus, on a un peu de plus, on aide celui qui en a moins. Puis on le fait pour aider. Il dit, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira leurs besoins, afin qu'à un moment donné, leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. Ben, ça peut arriver que ça soit un moment donné, que c'est nous qui n'a moins qu'on a besoin de s'en faire donner. Des fois, on peut avoir une job moins payante, ça rentre moins, on a plus de comptes. On peut pas donner gros, mais à un moment donné, on en gagne plus, on est capable d'en faire plus. Puis ça peut être nous qui soyons dans le besoin, comme des fois, on peut être dans l'abondance. Puis Paul, il dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Il faut apprendre à vivre dans l'abondance. Puis il faut apprendre à vivre dans la disette. La meilleure méthode pour vivre dans la disette, pour apprendre à vivre, c'est que tu fais attention à ce que tu dépenses, puis tu regardes à Dieu en demandant à Dieu qui t'aide à passer à travers. Ça, dans la disette. Puis quand tu es dans l'abondance, une bonne manière d'apprendre, c'est de pas courir à acheter toutes les convoitises qui nous passent par la tête. Faut être quand même sage dans notre administration, puis de faire attention à ce qu'on dépense pour pas... Parce que là, on a beaucoup, on dépense, faut plutôt s'arranger pour investir dans l'œuvre de Dieu, puis se ramasser un fonds de pension, plutôt que de gaspiller à tort et à travers. Dieu veut qu'on ait de la sagesse dans notre administration. T'en as pas beaucoup, donne-en moins. T'en as plus, donne-en plus. Puis donne selon ce que t'as. C'est ça qui est le point. Parce que dans l'Église, il y a des riches, puis il y a des pauvres. C'est vrai, ça? Dans l'Église, il y a des riches, puis il y a des pauvres. Il y a des moments qu'on est riche, puis il y a des moments qu'on est pauvre nous-mêmes. Il faut apprendre. Dieu comprend ça, lui-ci. Mais il va récompenser chacun selon son investissement. Là, vous allez me dire, ouais, mais quand tu es pauvre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu donnes moins. Dieu veut nous apprendre, donne quand même si tu es pauvre, mais donne moins, mais donne quand même. On va voir un passage là qui nous parle, que c'est Jésus qui nous l'a enseigné. Puis Dieu tient compte de notre abondance, puis il tient compte de notre pauvreté quand on donne. Dans Marc 12, 42. Il nous parle d'une pauvre veuve. Une pauvre veuve. C'est une veuve. Premièrement, qu'est-ce qu'on comprend quand c'est une veuve? Dans ce temps-là, les veuves, il n'y a pas d'assurance de vieillesse, de fonds de pension. Il n'y avait pas d'assurance quand tu es veuve puis que tu peux avoir une pension de veuve. Il n'y avait pas de bien-être social. Il n'y avait pas d'assurance chômage. Quand tu es veuve, ton mari n'est pas là pour travailler, pour pouvoir pourvoir aux besoins, fait que tu avais de la misère. Là, ils disent, c'est une pauvre veuve. C'est normal. D'habitude, la plupart du temps, les veuves qui étaient veuves dans ce temps-là, ils étaient pauvres. Elle mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Elle a mis ça dans le tronc pour donner. Alors Jésus a appelé ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Elle a juste mis deux petites pièces. Car tous ont mis leur superflu. Mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dieu regarde notre état financier, il sait si on est à l'aise ou si on est serré, puis il voit comment est-ce qu'on donne. Puis quand quelqu'un gagne, mettons, il est sous l'aide sociale, tout le monde le sait que quand tu as un salaire d'aide sociale, t'es pauvre. Mais si même tu donneras 2 piastres en tant que quelqu'un sous l'aide sociale, tu donnes plus que l'autre qui a mis 200 piastres, que lui, il a mis juste son over. Tous ses comptes sont payés, il a le frigidaire bien plein, il a tout ce qu'il a de besoin, puis l'over, c'est à 200 piastres, il a donné 200. Elle, celui qui est sous l'aide sociale, qui en gagne 600, elle donne 2 piastres, mais Dieu dit qu'elle a donné plus que toutes les autres. Fait que, c'est ça que je vous disais tantôt, Dieu nous dit pas parce que t'es pauvre, donne pas. Non, tu peux donner, même si tu donnes pas beaucoup, c'est apprécié par Dieu. Il voit que tu donnes plus que n'importe qui d'autre, puis tes récompenses vont être là. Pis si tu gagnes beaucoup, puis t'en mets beaucoup, ben tu vas être aussi récompensé. Ça y va d'après tes efforts. Dieu, il veut que tout le monde participe parce que ça en prend des gens qui ont le don d'être des pourvoyeurs. Il a mis des gens plus à l'aise financièrement pour ça, puis il y a des pauvres. C'est sûr que le 2 piastres du pauvre payera pas le loyer. Mais c'est pas grave. Elle a participé selon sa capacité. Puis Dieu, il est content. Il voit qu'elle a pourvu. Tandis que l'autre qui a plus d'argent, il donne beaucoup, puis c'est lui qui son don qui va être le plus pas à plus apprécié, mais le plus utile à payer le compte. Puis c'est correct. Puis c'est dans le plan de Dieu que celui qui est dans l'abondance donne des gros dons, puis Dieu, il voit que tout se paye, puis l'avancement de l'œuvre se fait. Puis ceux qui ont des petits dons, gênez-vous pas des données. Donnez. Même si c'est un petit don, même si vous avez des petits revenus, donnez, puis Dieu va vous le remettre. Parce qu'il y a une règle qu'il faut comprendre. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, on voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. Il faut apprendre à donner avec joie. Tu gagnes pas gros, sois content de donner 2 piastres. Tu gagnes beaucoup, sois content de donner ton 200 piastres. Dieu y aime quand on donne avec joie. Si on donne parce que oh non, pas encore, je suis obligé de donner, puis là, on broye quasiment quand on donne. Garde-là ton argent. Garde-là ton argent. Dieu y aime quand on est généreux puis qu'on donne avec joie. C'est ça qu'il faut développer. Parce qu'il y a un autre verset qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui a dit ça, cette phrase-là aussi. Il veut qu'on apprenne à être généreux, puis on va en avoir toute une satisfaction. On va être plus heureux dans notre cœur parce qu'on a donné, puis on va l'être 2 fois plus heureux, mais qu'on arrive l'autre bord, puis qu'on a des richesses qui nous attendent. Puis c'est pour ça qu'il faut pas regarder, « Ah, ben lui, j'y ai donné ça la semaine passée, cette semaine. » Non, faut pas regarder qu'est-ce qu'on donne. On donne à Dieu. Donnons. Si on en a peu, donnons peu. Si on en a beaucoup, donnons beaucoup. Mais donnons. Puis faisons-le avec joie. Si on voit ça, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est ça qui est la recette. Dieu sème beaucoup, tu vas moissonner beaucoup, fais-les avec joie, puis tu vas être heureux dans ton cœur, puis Dieu va te combler de toutes sortes de grâces, parce que tu vas toujours avoir ce qui t'est utile, ce que tu as besoin pour faire ce que tu as à faire, puis tu vas en avoir même over pour pouvoir donner, puis te ramasser, faire des bonnes œuvres. Pour te ramasser des récompenses. Puis un dernier verset sur ce sujet-là, dans 1 Timothée 6, le verset 17, on voit que ce verset-là s'adresse particulièrement aux riches. Dieu recommande aux riches d'être généreux, car c'est leur ministère particulièrement. Dieu veut que tout le monde donne, mais particulièrement les riches. Dieu les a bénis. Pourquoi, vous pensez? Pourquoi Dieu distribue beaucoup à certaines personnes? Sinon, c'est pour faire avancer son royaume. On peut dire, ah, oh, ben moi, j'ai gagné ça durement, je le dépense pour moi. Oui, tu as le droit de le garder puis de le dépenser pour toi-même. Mais ce que tu gardes pour toi-même, lorsque tu vas mourir, tout va rester dans ton compte de banque. Puis t'auras rien ramassé pour le royaume de Dieu. Tu vas arriver à l'autre bord, puis tu vas être comme sur l'aide sociale dans un sens dans le ciel. Tandis que si, au contraire, la personne réalise, hey, Dieu me bénit en abondance, je vais en mettre le paquet pour l'œuvre de Dieu. Je vais bénir Dieu avec ce que j'ai. Je vais lui en donner. Puis là, Dieu, ben lui, il tient compte de ça. Il s'aime beaucoup, mais Dieu va lui donner de moissonner beaucoup. Puis on voit ça dans 1 Timothée 6, 17, le dernier verset. Ça nous dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur confiance dans leur richesse, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour qu'on en jouisse. Là, c'est là qu'est la recommandation. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voyez-vous la conclusion? Dis aux riches, donnez généreusement, faites du bien. Soyez riches en bonnes œuvres. Puis, tu vois, les gens, ils vont s'amasser pour leur avenir un trésor sur un fondement solide. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous révèle ta pensée, ta volonté sur comment est-ce qu'on doit s'investir financièrement pour faire avancer ton œuvre. Je te remercie pour ta parole parce que c'est le moyen pour devenir riche dans le royaume de Dieu. On veut s'investir de notre temps, puis on veut aussi s'investir avec nos biens, Seigneur. Je te remercie de tout ce que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants. Je te demande de continuer à pourvoir à nos besoins, puis de nous donner, afin qu'on puisse donner dans ton œuvre, afin qu'on soit encore davantage béni de ta part. On le fait pas dans le but de recevoir, mais merci quand même pour tes promesses qui sont là, qui nous assurent que tu vas pourvoir à nos besoins. Nous remettons nos vies entre tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.